Et bien, ça fait un peu rêver.
Belle expo.
Art Expo News, Stéphane Dubreuil.
Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus.
Ouais, très bien.
Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.
Pour cette première sortie post-confinement, j'ai la chance d'aller vers le soleil dans une ville que j'aime beaucoup. Je suis au musée de la Romanité à Nîmes. C'est un tout jeune musée qui a ouvert il y a 3 ans pour accueillir les riches collections d'archéologie romaine de la ville. Et comme me l'a dit une responsable du musée, dès qu'on creuse dans cette ville, on trouve des trésors. Un peu comme à Rome, il fallait donc un lieu pour les exposer. Je vous invite vraiment à visiter ce musée, non seulement pour ses collections, il y a une mosaïque à tomber par terre, mais aussi pour son architecture radicale de Élisabeth de Porzamparc, qui tranche et qui dialogue de façon très originale avec celle des grandes arènes qui sont juste en face. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt sur le musée, le toit est une terrasse plantée qui permet d'admirer un panorama à 360 degrés. Deuxième cerise sur le musée, le restaurant, animé par le chef Franck Putela, étoilé au Michelin, vainqueur du Bocuse d'Or, qui devrait inspirer la plupart des autres musées pour offrir une gastronomie digne de ce nom. Je suis donc à Nîmes, musée de la Romanité, pour une exposition remarquable sur un sujet original, l'entrée des empereurs romains dans le monde divin. Un sujet qui peut paraître abstrait, même assez touffu, mais que l'exposition éclaire avec finesse et intelligence. Pour en parler, je suis avec Manuela Lambert, qui est conservatrice au musée de la Romanité de Nîmes, qui est aussi le commissaire scientifique de cette magnifique exposition « L'empereur romain, un mortel parmi les dieux ». Bonjour Manuela. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le thème de l'exposition, puisque le titre est très poétique, mais on a envie d'en savoir un peu plus.
Bonjour. Alors, c'est vrai que comme son titre ne l'indique pas forcément, cette exposition est consacrée à un thème historique très important, qui est celui du culte impérial. Alors, terme qui n'en dit pas beaucoup plus, qui est un terme qui a été inventé et qui est utilisé par les historiens, qui est un terme moderne, et qui permet de recouvrir toute une série d'hommages, de manifestations, de rites religieux adressés à l'empereur, mais de manière très prudente de son vivant, de manière indirecte, diront les historiens, puisque c'était pas la personne de l'empereur qui était vénérée directement, mais ses doubles divins et ses vertus divinisées, tout simplement parce que il était sacrilège de se prétendre, enfin qu'un humain se prétende être un dieu, et c'est évidemment contraire aux règles de la religion romaine traditionnelle. Alors le deuxième cas de figure, c'est aussi les honneurs qui étaient rendus à l'empereur après sa mort, puisque après sa mort, l'empereur est divinisé officiellement par le Sénat. Donc c'est vraiment une procédure politique. Auguste, qui est le fondateur du pouvoir impérial, est le premier à inaugurer cet honneur. Cette procédure de divinisation, elle permet à l'empereur de rejoindre l'assemblée des dieux de la cité après sa mort. C'est un honneur, mais c'est pas non plus une assimilation à une divinité. Il faut pas le comprendre comme ça, puisque l'empereur s'appellera désormais Divus, c'est-à-dire divin, et il n'est pas qualifié de Deus, terme qui renvoie au dieu immortel.
Donc on parle de l'empereur, donc on parle du premier empereur, c'est-à-dire Auguste.
Oui.
Quelle est la transformation la plus essentielle à laquelle conduit cette nouvelle nature de l'empereur ?
Alors évidemment, il faut relier toutes ces manifestations qui se déroulent dans le cadre du culte public au changement de régime qui est proposé par Auguste. Et Auguste, alors qui est tout jeune homme quand il se lance finalement dans les guerres civiles, donc il va construire de manière empirique et presque expérimentale, progressive, un pouvoir de nature monarchique, mais il prétend finalement garantir les institutions, la légalité républicaine, c'est-à-dire qu'officiellement on reste toujours dans un régime républicain, il y a toujours un Sénat, mais de facto dans la réalité le régime est devenu monarchique puisque le pouvoir civil, militaire, puis plus tard religieux est concentré entre les mains d'Auguste et celles de son entourage.
Alors en visitant l'exposition, tout à l'heure on l'a fait ensemble, on découvre une chose qui pour nous peut paraître très exotique, c'est la façon dont la divinité de l'empereur est accordée. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment ça se passe? Parce que évidemment, nous, dans notre monde religieux, de tradition catholique, ça nous paraît incroyable.
Alors c'est vrai que là, vous faites sans doute allusion à la procédure de divinisation post-mortem.
Tout à fait.
Déjà, de son vivant, il faut le préciser, l'empereur est vénéré, comme je le disais, de manière indirecte, c'est-à-dire qu'on va finalement vénérer des expédients, des qualités personnifiées de l'empereur, mais jamais sa personne. Et puis même après sa mort, il y a une façon de donner un honneur superlatif à l'empereur, de reconnaître finalement qu'il a assuré le bon gouvernement, la bonne gestion de l'empire de son vivant. C'est vu aussi comme une récompense accordé à un homme d'exception, cet honneur, il est quand même respectueux de la hiérarchie qui existe entre les hommes et les dieux. Alors, l'honneur est octroyé effectivement par le Sénat, et non par les dieux, hein, finalement. C'est évidemment ça qui est un peu exotique pour nous. Au terme d'une procédure donc, qui s'appelle la consécration, à l'issue des funérailles, lors des funérailles d'Auguste, un témoin, évidemment, a certifié avoir vu l'image de l'empereur s'élever lors de l'incinération depuis le bûcher. Donc évidemment, c'était très commode, puisque ça permettait au Sénat de dire, hop, son âme est allée rejoindre les dieux, il ne nous reste plus qu'à valider par un décret sénatorial en accordant les honneurs célestes à Auguste et en disant qu'il est désormais divinisé. Et après, finalement, cette procédure, ça va devenir un petit peu une routine. On va organiser lors des bûchers l'envol d'un aigle qui symbolisera l'envol de l'âme de l'empereur défunt au cours de l'incinération pour aller rejoindre les dieux. Donc.
Une question un peu qui dépasse l'exposition, c'est est-ce qu'on peut voir dans la monarchie française, dans sa nature de droit divin, le rapport que le roi de France entretient avec la divinité, avec le sacre, avec quelquefois même des présages aussi. Est-ce qu'il y a une relation entre cette nouveauté amenée par Auguste et ensuite la suite des monarques européens qui vont régner, sachant qu'on sait que le mythe de la romanité est très présente pendant toute la royauté?
Alors oui, c'est vrai que moi je pense tout de suite évidemment à la figure de Louis XIV et j'ai beaucoup pensé à lui quand j'ai travaillé sur cette exposition. Parce que c'est vrai qu'on peut jeter des parallèles effectivement avec l'absolutisme de droit divin, donc il est l'incarnation peut-être la plus emblématique, je dirais. Alors c'est vrai que Louis XIV s'est beaucoup mis en scène aussi avec des références antiquisantes, avec des modèles d'empereurs romains dont Auguste faisait partie. Comme Auguste, finalement, il y a aussi une forme d'identification visuelle à Apollon, mais au-delà de ça, c'est vrai que finalement, le fait de vouloir asseoir la légitimité de son pouvoir sur finalement une origine divine, en tout cas une prédestination ou finalement une élection divine, une assistance divine, on la retrouve dans beaucoup de périodes et dans beaucoup de civilisations, et c'est effectivement le cas sous l'Ancien Régime, dans les monarchies de droit divin, puisque effectivement l'empereur reçoit, le roi.
Hein,
c'est effectivement la déformation, reçoit vraiment son pouvoir de Dieu. Et le sacre, évidemment, quand il est loin, lui, il est quand même sacré. Finalement, le roi est considéré aussi un peu comme l'empereur romain, comme un intermédiaire entre les hommes, entre ses sujets, et là, en l'occurrence, Dieu, qui est un Dieu unique.
Pour finir, dans cette exposition, il y a beaucoup d'œuvres absolument extraordinaires, notamment des sculptures et des bustes qui sont vraiment presque bouleversants. Parce qu'on a l'impression de voir des Romains, de pouvoir les toucher. Quelles œuvres, je crois qu'il y a 140 ou 150,
149 ouais,
œuvres. Quelle œuvre vous plaît le plus, vous touche le plus?
Alors moi, en fait, c'est un couple que je trouve magnifique. Ce sont deux portraits qu'on a retrouvés ensemble. Le portrait de l'empereur Auguste et de son épouse Livie, donc représentés en buste. Ce sont des petits bronzes inscrits qu'on a découverts donc au tout début du XIXe siècle à Neuilly-le-Réal, dans l'Allier. Et donc, en fait, il y a deux choses qui m'intéressent. C'est que déjà, leur histoire est un petit peu particulière parce qu'ils sont si bien conservés qu'on les a pris au départ pour défaut. Ils ont conservé, par exemple, leurs incrustés en poudre de verre. Et puis par ailleurs, il y avait aussi des anomalies stylistiques ou typologiques qui ont fait dire aux gens, jusque récemment, aux spécialistes, que probablement c'était des faux. Enfin voilà, on ne comprenait pas qu'ils aient pu être conservés dans ces conditions. Et donc le Louvre a fait faire récemment, parce que ce sont des œuvres qui sont conservées au Louvre, a fait faire récemment des analyses qui ont confirmé leur authenticité. Donc les analyses qui ont porté sur leur alliage, sur la fabrication des yeux, et donc ils sont bien aujourd'hui authentifiés comme des bustes antiques. Et par ailleurs, nous, on les a choisis dans l'exposition en lien avec le sujet, parce que, en fait, ce sont des ex-voto, c'est-à-dire qu'ils ont été dédiés par un particulier, par un Gaulois en l'occurrence, à une divinité. Mais donc l'inscription mentionne en l'honneur de Auguste et Livy. Donc ça veut dire qu'on a quand même la présence de l'empereur en contexte votif, hein, cultuel, à l'initiative d'un particulier. Donc ce qui montre aussi que dans le domaine privé, donc un petit peu à l'écart de ces manifestations officielles dont on a parlé, on pouvait avoir aussi une forme de dévotion, ou en tout cas d'adhésion de certains particuliers par rapport aux valeurs que véhiculait la famille impériale.
Et comme vous le disiez, c'est la seule représentation d'Auguste âgé, c'est la seule représentation d'Auguste qui n'est pas idéalisée. Là, il n'est plus un dieu, il est vraiment un homme.
Alors, ce n'est pas tout à fait la seule. Alors, déjà, ce n'est pas vraiment Auguste âgé. Hein. Il a les marques de l'âge qu'on ne voit pas effectivement sur la plupart de ses portraits, parce qu'Auguste est toujours représenté jeune et effectivement idéalisé, alors qu'il est mort quand même à 75 ans. Mais aussi bien Auguste que Livy sur ses bustes, effectivement, sont représentés marqués, donc avec des rides, avec les sillons nasogéniens pour Livy. Et donc ça aussi, hein, c'est quelque chose d'inhabituel, hein, qui avait fait dire à une certaine époque qu'il ne pouvait pas être authentique. Donc c'est ce qui les distingue aussi un petit peu par rapport aux autres représentations connues d'Auguste.
Cette exposition est donc à voir à Nîmes, au Musée de la Romanité, jusqu'au 19 septembre. Pour compléter cette visite et surtout pour découvrir cette magnifique ville, n'hésitez pas à suivre les visites qui sont proposées par l'Office de Tourisme et divers organismes. C'est l'occasion de revoir la Maison Carrée, de revisiter ou de visiter les arènes et de découvrir les jardins de la Fontaine, un sublime jardin à la française qui a été construit sur une source découverte par les Romains qui était justement dédiée au culte impérial.
Bien, ça fait un peu rêver.
Belle expo.
Art Expo News, Stéphane Dubreuil.
Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus.
Ouais, très bien.
Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.